autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour nous interroger sur l'infinie possibilité des nombres. 1, 2, 3, 4, nous savons tous compter au moins jusqu'à 10. Et les nombres nous sont familiers d'un emploi si quotidien que l'on oublie jusqu'où ils peuvent nous entraîner et jusqu'où ils n'ont cessé d'entraîner. Philosophes et mathématiciens depuis l'Antiquité grecque en passant par les chiffres arabes jusqu'à nos jours et notre monde devenu numérique. Pourquoi n'en aurons-nous jamais fini avec les nombres ? Comment expliquer cette diversité de points de vue possibles pour en traiter ? Comment approcher leur beauté et leur nature même? Autant de questions autour de la question pourquoi la possibilité des nombres est-elle infinie? Nous recevons le mathématicien et philosophe Frédéric Patras. Bienvenue en nombre. Bonjour Frédéric Patras.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes mathématicien, directeur de recherche au CNRS et philosophe, auteur notamment au PUF d'un ouvrage sur la pensée mathématique contemporaine. Vous venez de publier, toujours aux presses universitaires de France, La possibilité des nombres, sur laquelle vous vous émerveillez à la suite de vos illustres prédécesseurs, parce qu'on oublie souvent que les nombres sont autant source d'inspiration pour les mathématiciens que pour les philosophes, Frédéric Patras.
Oui, en effet, j'ai donc travaillé sur les nombres depuis quelques années. Là, ça a été un travail de longue haleine qui m'a permis de découvrir en fait que, bon, on le devine, mais les nombres jouent un rôle vraiment structurant pour toutes les mathématiques, ça c'est évident, mais aussi pour la pensée philosophique. Et ce rôle structurant va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc en particulier, c'est vrai que lorsqu'on regarde toute la tradition philosophique, donc même en dehors des mathématiques, on voit que les nombres ont servi d'inspiration et de mode de compréhension, fonctionnement de la pensée, un petit peu de test aussi pour tester des théories philosophiques.
Ils activent la pensée, les nombres, on peut le dire comme ça ?
À la fois, il active au sens où il donne des éléments pour penser, pour comprendre un certain nombre de phénomènes. Et puis, il permet de l'illustrer par moments. Donc, on voit chez Platon, chez Kant, chez Husserl, donc chez tous les grands philosophes, à un certain moment, la volonté un petit peu de tester leur théorie, leur réflexion sur la manière dont la pensée fonctionne, sur le rapport aux mathématiques, l'existence des mathématiques. On voit qu'ils ont besoin de tester leur théorie sur des objets concrets. Et les nombres servent souvent de pierre de touche. Donc, il y a vraiment une pluralité de points de vue possibles qui est fascinante, émerveillante et qui m'a, à titre personnel, vraiment émerveillé.
Autour de la question pourquoi la possibilité des nombres est infinie, on commence bien par le vérifier avec le mix mathématique et philosophique de Charles Pélabon.
Quand on lui fait subir des opérations, il peut devenir curieux, étrange, imparfait. Certains n'en veulent plus. Il y a conflit au sein des mathématiciens pour savoir si tel est un nombre.
Parce que c'est quoi un nombre ?
Oh, je sais pas. Là, c'est trop pour moi là.
C'est des questions pièges ça.
2 et 2 font 4, 3 et 1 font 4 aussi. On va pas se battre pour un nombre aussi petit.
Donc c'est égal à...
Le sens des nombres est tout à fait inscrit dans le cerveau au même titre que le sens de l'espace et le sens du temps.
La réalité comporte-t-elle l'imaginaire ?
Quelle est la différence qui existe entre les nombres et les chiffres ?
Le nombre est né, et depuis, s'invente sans cesse.
Alors, on y va. 0 plus y plus moins 7, ça nous donne 0 plus...
Parfois, le chemin complexe et tortueux est plus intéressant, plus beau, plus riche que le chemin facile. Parfois, au contraire, c'est la simplicité qui fait toute la beauté.
Le terrain de Gödel se déplace dans d'autres secteurs que le secteur des mathématiques ou de la logique pure, y compris en philosophie.
Le mystère qui déconcerte les scientifiques depuis des siècles, c'est celui des nombres premiers.
La division euclidienne, c'est tout simplement la division que vous posiez à l'école primaire.
Disons-le tout net, même si ça n'a l'air de rien, sans le zéro, il n'y aurait pas de note éliminatoire, il n'y aurait pas de système binaire.
Le nombre devient le référent à plein de niveaux. Et par exemple, pour communiquer avec des machines intelligentes, eh bien, il faudra transformer cette information sous une forme numérique.
Les nombres positifs, d'accord, mais les nombres négatifs.
Mais c'est absurde, dit Descartes, moins que rien n'existe pas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Et s'il fallait leur trouver un point commun, infini.
Autour de la question, pourquoi la possibilité des nombres est-elle infinie ? Qu'est-ce que c'est qu'un nombre, Frédéric Patras ?
Alors, c'est une question très très difficile, au sens où justement il y a vraiment une pluralité d'approches possibles qui conduisent à autant de définitions. Ce qui est intéressant au niveau historique, c'est que la question, simplement cette question-là, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un nombre, est apparue en un certain sens relativement tard. Elle apparaît dans la Grèce. Elle apparaît, on pense, au 6e siècle avec Thalès, qui a essayé...
Au 6e siècle
avant Jésus-Christ.
Avant Jésus-Christ, extrêmement tard. Par rapport à quoi? Par rapport aux mathématiques égyptiennes, mésopotamiennes?
Oui, voilà. On sait bien que les mathématiques ont, d'une certaine manière, toujours existé. Disons, il n'y a pas de société humaine, quelle qu'elle soit, qui n'est pas à un moment ou l'autre utilisé les mathématiques, ce qui renvoie au fait que les hommes ont une compréhension spontanée des petits nombres, en tout cas, qu'on retrouve du coup automatiquement dans la vie courante, et puis qui va se manifester tout de suite dans le langage à quelques niveaux qu'on se situe, disons, du développement de l'humanité. Donc les nombres en particulier sont apparus très très tôt, ont toujours existé, mais...
Entre nombre et chiffre déjà, on peut dire nombre comme on dit chiffre
ou... Oui, alors nombre et chiffre, alors effectivement l'usage courant est de mélanger un petit peu les deux notions. On utilise le chiffre très couramment pour parler des nombres. En fait, l'orthodoxie linguistique voudrait qu'on utilise le chiffre vis-à-vis des nombres, comme on utilise les lettres vis-à-vis des mots. C'est-à-dire, les chiffres seraient les constituants des nombres, les signes constituant les nombres. Donc, ça serait les nombres, pour nous, les nombres de 0 à 9 sont également des chiffres et sont, d'une certaine manière, l'alphabet du calcul qu'on va utiliser pour le calcul.
Alors, revenons-en aux nombres et à cette difficile définition, au fond, posée par Thalès, vous dites, 6 siècles avant
Jésus-Christ. Oui, donc, il a été le premier à se poser la question, à se dire, alors, cette question, elle est née avec les nombres, ensuite, elle s'est développée... avec la géométrie et toutes les mathématiques, mais il y a eu ce besoin à un certain moment de définir les choses, de dire, bon, les nombres on les connaît bien, mais au fond, que sont-ils? Comment peut-on les définir conceptuellement? Et lui a proposé la définition des nombres comme collection d'unités. Et c'est une définition qui se retrouve au fond tout au long de l'histoire, dans la mesure où elle correspond à une définition possible des nombres, qui est celle des nombres cardinaux, en fait des nombres qui servent à compter, à dénombrer.
Donc une collection d'unités, j'ai envie de dire que ça nous amène tout de suite à la question du 1, et puisqu'on est dans les nombres, pour Aristote, le 1 n'est pas un nombre, ce qui nous amène à une nouvelle question soulevée par Luc Allemand, il est rédacteur en chef du mensuel La Recherche, et il vous la pose.
Frédéric Patras, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il a été si difficile de démontrer que 1 était un nombre?
Pourquoi, Frédéric Patras?
Alors, oui, la question en elle-même est un peu surprenante aujourd'hui. On se dit, mais enfin, 1 est évidemment un nombre, donc pourquoi se poser une question aussi contre nature d'une certaine manière? D'autant qu'aujourd'hui, nous sommes en plus habitués, et les très très jeunes élèves sont habitués à des nombres relativement complexes, comme les fractions, les nombres négatifs, qui ont mis beaucoup de temps à être acceptés en tant que nombre également. Mais si on se limite au 1, donc c'est une chose relativement contre-intuitive aujourd'hui de se poser la question de l'appartenance du 1 au nombre. Mais pourtant, cette question a vraiment parcouru toute l'histoire des mathématiques et de la philosophie. Et dans une certaine mesure, de mon point de vue, elle a été tranchée seulement, vraiment, de manière satisfaisante à la fin du 19e siècle. Donc, infiniment tard, si on n'est pas...
Infiniment tard, que le 1 est un nombre. Hein.
Oui, ouais. C'est vraiment, disons... Et pour comprendre la question, en fait, la possibilité de cette question de l'appartenance du 1 au nombre, il faut revenir justement à Thalès, à l'idée qu'on peut définir les nombres comme des collections d'unités. Puisque si on définit les nombres comme des collections d'unités, on voit qu'il y a une homogénéité entre l'unité, donc qui va être le constituant, d'une certaine manière, des nombres, et les nombres qui vont commencer à partir de 2 dans la pensée grecque traditionnelle, justement parce que les collections commencent à exister uniquement à partir du moment où on a plusieurs objets et du coup plusieurs unités. Donc il y a une origine, disons, théorique et conceptuelle de ce problème de l'appartenance de l'unité au nombre. Alors évidemment, il y a aussi une infinité de raisons tout à fait excellentes pour penser que le 1 est un nombre, mais qui suivent des cheminements différents éventuellement. En tout cas, si on s'en tient à l'approche de Thalès, si on s'en tient à l'approche des nombres comme nombres cardinaux, il y a une certaine logique, malgré tout, à poser la question de l'appartenance du 1 au nombre. Et c'est donc essentiellement à la fin du XIXe siècle, lorsque la théorie des ensembles s'est constituée.
Il a fallu attendre la théorie des ensembles pour pouvoir confirmer véritablement que le 1 était bien un nombre, le définir. Donc à quel point quelque chose d'aussi apparemment simple et complexe et entraîne des développements complexes de la pensée.
Je crois qu'on a compris une chose très simple à la fin du XIXe siècle, c'est qu'un objet, donc une entité qui va devenir une unité au moment où on va essayer de dénombrer les choses, pouvait être considéré comme une collection. Alors c'est une collection à un seul objet, mais il y a cette espèce de distinction très fine entre l'objet et l'objet considéré comme une multiplicité qui est théorisée à ce moment-là, qui est comprise à ce moment-là, et qui du coup va devenir un des fondements vraiment des mathématiques à travers la théorie des ensembles.
Autour de la question, pourquoi la possibilité des nombres est infinie? On est parti du 1, mais on continue. Avant, on se retourne un peu vers ces grands penseurs, philosophes et mathématiciens de la Grèce antique avec Angélique Ionatos, extrait de son album Sappho de Mytilène. Angélique Ionatos chante Sappho de Mytilène sur RFI. Nous laissons les penseurs grecs, il est promis, ont tenté de penser la possibilité des nombres, pour reprendre le titre de l'essai de notre invité, le mathématicien et philosophe Frédéric Patras. Autour de la question, pourquoi la possibilité des nombres est infinie et pourquoi arrivons-nous quand même à les penser, ces nombres, nous les humains? Écoutez l'éclairage du professeur Stanislas Dehaene du Collège de France, neuroscientifique, éminent spécialiste du cerveau et auteur de La Bosse des Maths.
Dans La Bosse des Maths, j'avais expliqué que le cerveau, effectivement, possède un sens du nombre qui est extrêmement précoce. On a maintenant des preuves tout à fait extraordinaires et nouvelles de cela. Par exemple, même des nouveau-nés de quelques heures, ils viennent de naître, ils n'ont pas encore interagi avec leur environnement. Lorsqu'ils voient quatre objets et qu'ils entendent quatre sons, ils font le rapport entre ces deux quantités, ils sont capables de dire c'est le même nombre. Et si d'un côté il y a quatre objets et de l'autre 12 sons, ils disent ce n'est pas la même chose. Les nombres sont différents. Le sens des nombres est tout à fait inscrit dans le cerveau, au même titre que le sens de l'espace et le sens du temps. Ce sont les grands invariants qui nous sont donnés par l'évolution. Pourquoi? Parce que ce sont des sens éminemment utiles à la compréhension du monde extérieur. Nous avons besoin d'aborder le monde extérieur avec des catégories qui nous aident à en faire sens. Et le nombre en fait absolument partie. Alors bien sûr, ce sens inné n'est pas parfaitement développé. Il va continuer de se développer tout au long de la vie de l'individu, et en particulier la révolution mentale et culturelle elle, a été celle de créer des symboles pour les nombres qui nous permettent de référer à des nombres exacts, précis. De sorte que 17, 18 deviennent catégoriquement différents. Alors que dans le cerveau du bébé ou dans le cerveau de l'animal, ils vont être confondus parce qu'ils sont très proches. À partir du moment où on distingue les nombres d'une façon catégorique et symbolique, on est dans le domaine du monde numérique que nous connaissons aujourd'hui, dont nous connaissons une expansion absolument massive.
Du sens donc des nombres, du nombre inné chez l'être humain à la catégorisation, à la pensée symbolique dans notre monde numérique. Au fond, c'est le même fil de la possibilité des nombres qui est tiré, Frédéric Patras.
Oui, je crois. En tout cas, c'est un des aspects, une des approches possibles à la compréhension des nombres. Et les questions que pose Stanislas Dehaene sont extrêmement intéressantes, puisque cette question, au fond, comment le cerveau perçoit-il qu'en soit-il des nombres? Et puis, bon, évidemment, on peut se poser des questions au-delà des nombres, l'espace, le temps, l'arithmétique, la géométrie. De là, bon, même, on peut envisager d'aborder tout le corpus des mathématiques à travers cette approche, son approche en neuropsychologie cognitive, dont il est vraiment un des grands spécialistes et qu'il a su populariser aussi, ce qui est important. Donc, il se passe beaucoup de choses très intéressantes à ce niveau-là, et c'est une question qui est légitime de se poser, qui apporte aussi des idées, qui nous apporte une compréhension renouvelée des nombres. Si je me place d'un point de vue qui est un peu différent du sien, donc d'un point de vue purement mathématique, hein, si j'essaie de penser au fond ce rapport des nombres au cerveau du point de vue d'un mathématicien, ce qui me semble intéressant à souligner, c'est que les nombres peuvent être conçus d'un point de vue mathématique de façon multiple. J'ai déjà parlé de Thalès et de l'activité de dénombrement, de la numération, qui conduit à ce qu'on appelle l'approche par la théorie des cardinaux, qui est malgré tout vraiment l'approche fondamentale et la plus canonique pour penser les nombres entiers. Mais il y a d'autres approches possibles. Il y a l'idée d'ordre et de succession, par exemple, qui est aussi très importante et qui peut servir de support à la compréhension et à la théorisation des nombres.
C'est-à-dire comprendre que les nombres, il y a un ordre, il y a une succession et que c'est complètement différent.
Oui, disons, ce sont deux approches complémentaires. L'approche par les cardinaux, donc on essaie de dénombrer une collection, le nombre d'unités justement dans une collection, et l'approche par les ordinaux, qui conduit à penser le nombre à travers la succession, 1, 2, etc. Donc le fait qu'il existe un ordre naturel, et cet ordre va être utilisé d'ailleurs dans l'activité de dénombrement, puisque si on a un paquet de lentilles, mettons, à dénombrer, ben on va en prendre une et puis une autre, etc. Donc on va créer un ordre artificiellement sur le paquet qu'on veut énumérer. Donc il y a cette logique traditionnelle, cette espèce de bipartition naturelle et très profonde entre cardinaux et ordinaux, mais il y a d'autres approches possibles. Il y a des philosophes et des mathématiciens qui ont voulu fonder les nombres justement sur l'expérience du temps dont Dehaene parlait, sur l'expérience de l'espace et du continu aussi. Donc il y a une multitude d'approches possibles, à la fois philosophiquement et à l'intérieur des mathématiques, pour penser les nombres. Et il y a aussi des approches, alors là, qui sont plus modernes, qui conduisent à penser les nombres à travers l'algèbre ou à travers les systèmes symboliques ou formels.
Et vous dites penser les nombres, parce que les nombres, c'est pas une réalité matérielle, c'est tout de suite du symbole.
Oui, les nombres sont constitués malgré tout, sont des entités qui ne sont pas là sous nos yeux. Lorsqu'on pense un nombre, lorsqu'on dénombre, il faut une certaine volonté de conceptualiser.
D'abstraction.
D'abstraire. Le nombre n'est pas là. Le débat sur la création des entités mathématiques ou leur préexistence à l'activité humaine, est souvent relativement superficiel, mais bon, il y a un fond de vérité, quelque chose qui se joue là-derrière.
Est-il écrit en langage mathématique ou notre cerveau est-il écrit en langage mathématique?
Oui, ça c'est encore une autre question. Enfin, juste une seconde. Pour revenir à l'approche de Stanislas Dehaene, ce qui me semble intéressant dans ce qui se joue en ce moment autour de la neuropsychologie, c'est qu'il y a ce qu'il appelle l'organe des nombres, donc le fait que les hommes et les animaux sont capables de concevoir spontanément, de percevoir peut-être plus exactement des nombres très simples, très, très, très petits.
1, 2, 3, 4.
Je crois qu'on s'arrête à 7. Mm. Mais il y a aussi toutes ces approches mathématiquement possibles et qui, elles, également se reflètent dans le cerveau. C'est-à-dire nous avons des facultés cognitives différentes qu'on peut essayer d'étudier. Et les différentes théorisations possibles, donc nombres ordinaux, structure, conception des nombres à partir de l'expérience du temps
se refléter
ou du continu,
aussi dans le cerveau.
Donc se reflète là aussi.
Constamment un renvoi entre les deux autour de la question pourquoi la possibilité des nombres est infinie. On n'a pas du tout fini d'épuiser le sujet. On se retrouve dans 3 minutes si vous le voulez bien. Juste après le flash d'info. À tout de suite, vous pouvez compter sur nous.
Caroline Lechowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question pourquoi la possibilité des nombres est infinie. Nous sommes en compagnie du mathématicien, directeur de recherche au CNRS et philosophe Frédéric Patras qui vient de publier La possibilité des nombres aux presses universitaires de France.
Pour moi les nombres, j'ai toujours trouvé ça très très beau. Il y a un type de nombre en particulier qui me fascine, ce sont les nombres univers. Un nombre univers, c'est un réel, par exemple 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. C'est un nombre univers, on l'appelle la constante de Champernowne pour les amateurs qui nous écoutent. Et un nombre univers, c'est un nombre qui contient la totalité de nombres entiers. Ça veut dire que ce nombre, il contient la totalité de ce qui peut être écrit sur un écran d'ordinateur. Il contient la totalité de tous les livres que l'humanité écrira jamais. Il contient la totalité de tous les films et de toutes leurs variantes. Il contient une version du Bon, la brute et le truand où Clint Eastwood fume des gitans de maïs plutôt que ses cigares emblématiques. Et ça, c'est les maths. Ça, c'est la beauté des nombres. Vous avez des nombres comme ça qui contiennent la totalité de tout ce que l'humanité produira. En tout cas, pas physiquement, mais numériquement, c'est-à-dire représenté.
La possibilité des nombres est décidément infinie. Vous voulez commenter cet éclairage sur les nombres univers du jeune chercheur Idrissa Berkane?
Oui,
c'est
effectivement l'univers des nombres est fascinant. Les nombres univers font partie des nombres parmi les plus fascinants puisqu'il y a cette idée qui contiennent en puissance la totalité de tout ce qui peut être pensé, écrit. Si on replace dans un contexte individuel ce que Idrissa Berkane a dit, on peut penser que, par exemple, tout ce que chacun de nous écrira durant sa vie sera contenu dans un de ces nombres univers. Pourvu qu'on le code, il y a des façons de coder qui sont relativement anodines et faciles. On peut coder n'importe quel texte, n'importe quelle suite de signes.
D'autant plus dans notre monde numérique aujourd'hui, on sait faire.
D'autant plus dans notre numérique, on sait faire. Effectivement, on le fait sans le savoir tout le temps. Donc, tout ce que chacun de nous pourra écrire, typiquement, est contenu dans un de ces nombres univers. C'est une idée qui est assez troublante et fascinante à la fois. Je crois que ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'elle montre la puissance du codage par les nombres entiers. Puissance du codage qu'on trouve effectivement en informatique.
Les nombres entiers. Oui. Cette explication ou définition des nombres.
Oui, alors, les nombres entiers, c'est les nombres qui commencent avec 0, 1, etc. Par opposition au nombre relatif, par exemple, qui contiendrait les négatifs, ou au nombre réel qui mesure le continu.
Parce que dans cette histoire ou cette pensée, possibilité des nombres, on n'a pas parlé du zéro, mais le zéro et le nombre négatif, c'est arrivé assez tard, finalement, dans l'histoire de nos mathématiques, de nos mathématiciens et philosophes, hein, qui ont pensé les nombres.
Oui, c'est arrivé tard et surtout très progressivement, puisque une des constantes un petit peu du développement des mathématiques, c'est que souvent les choses apparaissent et sont comprises, théorisées progressivement. Donc le zéro, on en trouve des germes déjà chez les Babyloniens et chez les Grecs, mais sous une forme qui est vraiment embryonnaire. En général, l'invention du zéro, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est attribuée plutôt aux Indiens et après a été reprise par la civilisation arabe. Et pour les négatifs, c'est pareil, il y a une constitution lente, très progressive, puisque l'homme a toujours eu besoin de penser d'une certaine manière les quantités négatives à travers l'idée de soustraction ou de manque. Mais ça a été théorisé très lentement, et surtout ça a été accepté conceptuellement très tard, puisque la question qu'on a eue pour le 1, évidemment, s'est posée encore avec plus d'acuité pour le 0 et pour les nombres négatifs.
Est-ce que ce sont des nombres?
Est-ce que ce sont des nombres? Est-ce qu'on doit les appeler des nombres? Est-ce qu'ils existent vraiment? Est-ce qu'ils ont une légitimité? Alors, en philosophie, on dirait ontologique, c'est-à-dire est-ce qu'ils existent vraiment?
Oui, c'est ça, parce qu'ils ne sont pas matériellement nombres, mais est-ce qu'ils ont une existence? Est-ce qu'on peut leur donner le nom de nombre?
Tout à fait, voilà. Et c'est une question qui a vraiment parcouru l'histoire de la philosophie, qu'on trouve typiquement au 18e. Il y a beaucoup de textes au 18e qui s'interrogent en particulier sur les négatifs. Et ce que les philosophes et les mathématiciens à l'époque ont essayé de dire pour justifier la réalité justement des nombres négatifs, c'est qu'on pouvait les réaliser, on pouvait les comprendre à partir d'expériences comme celle justement du manque ou du
Oui, parce que c'est ça au fond. Ce sont les nombres, ce sont des entités donc qui existent et qui n'existent pas. Enfin, qui existent dans notre pensée, mais il faut qu'on puisse les réaliser, les expérimenter. C'est ça.
C'est un problème qu'on a de toute façon avec toutes les mathématiques. C'est-à-dire, les mathématiques pour les mathématiciens procurent vraiment une sensation de réalité. C'est-à-dire, on a l'impression que tous les objets, même très symboliques, très abstraits qu'on manipule, ont une existence réelle et concrète, mais malgré tout, ce sont des entités relativement virtuelles.
Et puis tout le monde n'est pas mathématicien.
Et puis tout le monde n'est pas des mathématiciens, bon. Enfin, on peut le devenir, c'est une question d'entraînement en partie et d'habitude de la pensée symbolique et théorique.
Mais c'est ça, d'habitude de la pensée symbolique et théorique. C'est ça aussi qu'on découvre dans votre ouvrage, La possibilité des nombres, c'est que, enfin, faut pas séparer les deux. Essayer de penser et de penser symboliquement peut amener aux mathématiques. Les philosophes peuvent aller aux mathématiques comme les mathématiciens peuvent aller à la philosophie.
Oui, il y a un rapport. Il y a un rapport à la pensée théorique qui est assez spécifique aux mathématiques, mais qui effectivement est très très lié à toute une branche de la philosophie, toute la philosophie, disons, qui s'intéresse à la théorie, à la possibilité de la connaissance, là aussi, une question de possibilité.
C'est une question de possibilité.
De la connaissance. Dans la pensée grecque, on voit très bien que Platon et Aristote, en particulier, qui sont vraiment les fondateurs de la philosophie, et plus que les fondateurs au sens où j'encourage tous ceux qui nous écoutent à lire Platon et Aristote, c'est vraiment magnifique au sens où énormément de théories qui échafaudent sont pertinentes encore aujourd'hui et surtout dans des outils pour penser des phénomènes très profonds liés à la théorie de la connaissance. Tu vois-t-il que les premiers, disons, ils ont vraiment essayé de comprendre comment la connaissance était possible? Et tout de suite, la possibilité de l'existence même de connaissances scientifiques s'est jouée en grande partie dans les nombres, dans la pensée mathématique. Donc il y a ce rapport vraiment étroit qui structure toute l'histoire de la philosophie, ce rapport étroit entre théorie de la connaissance et mathématiques, et qui est vraiment une des choses qui, me fascine le plus.
Vous-même, les nombres, pour vous, vous les représentez, enfin pour vous, c'est vraiment, ils existent réellement. Vous les voyez d'une certaine manière, comment on pourrait dire ça?
Une question difficile, non. Les voir, bon, les gens ont des appréhensions différentes. Je pense avoir un rapport relativement symbolique au nombre. Moi, je suis algébriste, en fait, de formation. Ce qui fait que j'ai tendance à privilégier des approches qui sont relativement, ce qu'on appellerait structurelles, c'est-à-dire qui passent par la médiation de théories symboliques,
pour
de systèmes axiomatiques,
hein.
Y compris pour aborder les nombres.
Autour de la question pourquoi la possibilité des nombres est infinie, je vous propose un nouvel éclairage qui ouvre alors encore plus loin, si c'est possible, au niveau de la représentation des nombres, celui de Daniel Tammet, c'était l'auteur de L'éternité dans une heure, ou La poésie des nombres, joli titre d'ouvrage. Daniel Tammet est un être, il faut le dire, un peu particulier, atteint du syndrome d'Asperger. Il possède des capacités de calcul et de mémorisation absolument phénoménales. Il est aussi synesthète, c'est-à-dire que pour lui, chaque nombre renvoie à une forme, une couleur, à un son. Il nous faisait partager cette poésie sensible des nombres, ici même sur RFI, dans ce studio, on l'écoute.
Pythagore, il disait que les mathématiques, c'est la vie. Que, au fond, on n'est pas simplement la chair, l'os, mais les formes. Et puisqu'on est les formes, on est en quelque sorte mathématique. On peut se découvrir à travers les nombres, à travers cette poésie des formes, la symétrie, les conjugaisons de ces nombres-là, et que l'univers est comme une chanson, les planètes en tournant créent la musique. Et Pythagore disait, mais j'entends cette musique universelle et je veux partager cette musique avec vous.
Puisque vous voyez des choses, vous sentez des choses dans les nombres, ici nous sommes à Ici les Moulineaux au studio 42. Je crois que le 4 c'est votre chiffre favori, 42,
oui.
4, 2 ce serait quoi?
Alors 4 c'est d'un ami pour moi d'enfance, puisque pour moi je me sens un peu comme le 4. 4 c'est timide. C'est un nombre timide, un chiffre timide, et donc pour moi, puisque je suis un peu timide, et surtout enfant, j'étais extrêmement timide, donc je me suis dit, mais je suis comme le 4. Et puis le 2, c'est plus comme le vent, une brise qui bouge, qui effleure les arbres, le printemps, donc c'est un chiffre assez poétique, donc la combinaison des deux est très agréable pour moi.
On est très bien ensemble hein, au studio 42, Frédéric Patras. Que vous inspire cet éclairage poétique, mathématique, si sensible de Daniel Tammet?
Je partage pas cette sensibilité extrême au nombre. C'est vrai que j'ai pas de sentiment particulier.
Oui, le 4 est pas si timide
du
que
4,
ça pour vous,
d'accord. Pas de sensation de la timidité du 4. Mais je pense qu'une des choses qui est intéressante dans ce témoignage nous fait revenir un petit peu à ce qu'on disait à propos de l'intervention de Dehaene tout à l'heure, à savoir le fait que le cerveau appréhende les nombres et puis toutes les entités, quelles qu'elles soient, de plusieurs manières, de manière assez différente. Donc il y a des approches qui sont symboliques, il y a des approches qui sont purement intuitives.
C'est subjectif aussi.
Il y a du subjectif évidemment là-dedans, et toutes ces approches bien collaborent, disons, pour créer les nombres. Et évidemment, chacun de nous va avoir tendance à privilégier, en fonction probablement de la constitution de son cerveau et puis aussi de ses goûts individuels et de sa formation.
Il y a beaucoup de mathématiciens intérêts. Aussi comme Cédric Villani, Médaille-Fils, qui parlent de la beauté. Alors la beauté des mathématiques en général et j'imagine des nombres particuliers.
Mais la beauté en mathématiques est une question qui est très intéressante, mais difficile. Je crois que tout mathématicien dira sans hésiter un instant que la beauté, donc celle des nombres, mais pour un géomètre, ça sera celle des figures géométriques. Pour un algébriste, ça sera celle des théories mathématiques abstraites. La beauté est une des raisons pour lesquelles il a choisi de devenir mathématicien. Et il a au quotidien cette expérience de la beauté dans le travail mathématique. Cela dit, si on demande à un mathématicien d'expliquer d'où vient cette sensation de beauté, là, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à expliquer. La raison tient, je pense, au fait que c'est un phénomène général, l'expérience de la beauté est d'abord une expérience, justement, c'est d'abord quelque chose qu'on vit. Et c'est seulement sur la base de ce vécu qu'on peut en parler.
Mais ce serait quoi? Ce serait le vécu de la pensée, en fait, en l'occurrence, enfin, oui, de résolution de pensée ou de chemin de pensée, oui, qui rapproche de la beauté, enfin, je ne sais pas comment le dire autrement.
Il me semble qu'il y a plusieurs sources de la beauté en mathématiques qui correspondent à des expériences justement différentes que chacun peut faire. Il y a une forme de beauté qui vient simplement du lien entre les mathématiques et le monde réel, une espèce de beauté matérielle qui fait que d'une certaine manière tout ce qui est beau dans le monde, la musique par exemple, a des répondants mathématiques. Il y a une très belle théorie de la musique que les Grecs connaissaient déjà, la théorie des hauteurs musicales, la manière dont tout ça est codé mathématiquement, c'est vraiment fascinant.
Pythagore,
oui,
mais pas seulement.
Disons, on voit bien qu'il y a une correspondance entre le monde réel et les théories mathématiques, qui est, je pense, une des sources de cette sensation de beauté, d'harmonie, que l'on trouve en particulier dans les nombres. Après, il y a, comme vous le disiez, il y a des origines qui sont plus intellectuelles dans le travail mathématique, mais pas seulement dans le travail d'ailleurs, simplement dans la connaissance mathématique à quelque niveau que ce soit. On fait l'expérience qu'il y a des cheminements de pensée qui conduisent à des solutions, à des idées nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas et qui procurent une émotion intellectuelle qui participe, à mon avis, de la sensation de beauté des mathématiques.
Et ces chemins, ces ouvertures, justement, est-ce que ça a servi à des penseurs, alors du côté philosophe ou du côté mathématicien, à justement ouvrir de nouvelles voies, à penser autrement, ou à penser de nouvelles choses, justement? Frédéric Patras.
L'expérience de la beauté, disons, effectivement, si on revient déjà à Pythagore, la correspondance entre en particulier les nombres et les entités du monde telles que la concevaient les pythagoriciens a joué un rôle structurant chez eux et qui ensuite s'est répandu tout au long de l'histoire de l'humanité. Le rôle des nombres a fasciné beaucoup les philosophes, et en particulier il y a des traditions ésotériques qui sont nées de là, qui sont
de mystique des nombres,
de mystique des nombres qui sont nées du pythagorisme. Mais qu'on voit apparaître, pas seulement dans la tradition occidentale, on voit apparaître ça en Chine, on voit apparaître, disons, dans toutes les civilisations, les nombres ont toujours fasciné, et il y a eu une tendance à les utiliser en direction de la mystique, dans la mesure où des proto-conceptions du nombre indiquaient qu'on pouvait relier des phénomènes qui relèvent de la théologie ou de l'ésotérisme au petit nombre en particulier. À partir de là, des théories sont constituées, donc sur le 1, le 2, le 3, essentiellement les petits nombres. Donc il y a ce lien qui a toujours existé entre les nombres, l'ésotérisme et une certaine forme de pensée esthétique.
Autour de la question pourquoi la possibilité de nombre est infinie, la possibilité des nombres, elle a aussi soulevé plein d'autres questions et notamment amené aux mathématiques modernes qui ont amené des bouleversements considérables au niveau de la physique et puis aujourd'hui dans nos vies quotidiennes, notre monde devenu numérique. La pensée mathématique et les nombres ont permis des avancées considérables à l'humanité. C'est ça en lien direct là.
Oui. Je crois qu'on sous-estime beaucoup le rôle des mathématiques dans la constitution de la modernité de notre civilisation technologique, au sens où bon, c'est un problème que nous, mathématiciens, avons beaucoup de mal à véhiculer auprès du grand public, en particulier au moment de susciter des vocations scientifiques. Les mathématiques sont vraiment partout, que ce soit dans les ordinateurs, évidemment dans les fusées qu'on peut envoyer, on parlait tout à l'heure là aux informations de la station spatiale. Lorsqu'on utilise de manière peut-être plus quotidienne un téléphone portable, le moindre téléphone portable est rempli de mathématiques à un point qu'on peut difficilement imaginer. Et cette prégnance de la pensée mathématique, qui est très complexe, la pensée mathématique moderne, elle fait appel à des schémas de pensée, des théories extrêmement sophistiquées, mais dont on a vraiment besoin justement pour réussir à créer tous ces outils qui font notre quotidien. Alors les outils numériques, c'est évident, mais les mathématiques sont partout. Et ça, c'est un message, je pense, important à véhiculer, parce que c'est pas forcément toujours compris. On a peut-être l'impression que les sciences de l'information sont des sciences qui justement relèvent plus de la technologie.
Mais les mathématiques sont partout.
Les mathématiques y sont.
Autour de la question pourquoi la possibilité des nombres est infinie et pourquoi les nombres sont partout. Magic Numbers, Wax Taylor sur RFI.
In the soundtrack, pulling off at the set of bounce back. Hack an algorithm through a prism and a vision, and the visions give away to a synergy of rhythm.
No more living in fear, it's now clear. Eyes wide open, he knows that it's near. A feeling overthrows any previous notion he had of his sad and his gleeful emotion.
The potion made him go captivated and created from the energy building. His mind made it and related to the tools of the student of the school of a lady. Finding himself the longer way to come on.
Black turntable on the floor, ears are perceiving the score.
They ride the horizon.
Walls can't confine them. Black turntable on the floor. Ears up asleep in the score.
Eyes and they ride the horizon.
Walls can't confine them.
Pay attention to the music.
From a musical instrument.
It was made by what they call the lost wax process.
Now he's got time on his side, sand in the hourglass. One for the win, two for the past that he heard. Three outside with the foul scowl, effortlessly older back then.
Much younger now,
he's got the hunger now. Wisdom of youth,
bust out the slumbering vision and truth. Like a new paradigm, sure to paralyze his mind. Can he handle dismantling space and time? Afraid there might be evil to come. Snap out of it, 4, 3, 2, 1.
Having fun, under a spell, feeling so numb. And exploring on a run into the sunlight. Gone into the darkness, awareness making him paralyzed. To the music he was making right in front of his eyes. For a surprise on the rise, so flammable he could burn. But then he slows down and concerned to learn.
As he turns around, the world becomes his private playground.
There's no chance he can manage to keep his heart beat to stay down.
Wax Taylor, eh oui, Magic Number, qui m'a surprise sur RFI, avec le mathématicien et philosophe Frédéric Patras, auteur de La possibilité des nombres, autour de la question pourquoi la possibilité des nombres est-elle infinie? Aujourd'hui, plus encore qu'hier et moins que demain, dans notre monde devenu numérique, pour le meilleur comme pour le pire, écoutez l'éclairage du chercheur en informatique et en intelligence artificielle, Jean-Gabriel Ganassia.
Par définition, le numérique se réfère au nombre. Une tentation extrêmement courante, c'est le réductionnisme. C'est de penser que le monde, lui, n'est que nombre. Même si les nombres nous disent beaucoup sur le monde, si on a fait beaucoup de progrès grâce à la mise en nombre. En revanche, peut-être que justement, il faut se garder de ces différentes réductions de l'un à l'autre. Et c'est plutôt une inquiétude que je pourrais avoir.
Vous aussi, Frédéric Patras, vous partageriez cette inquiétude d'un monde uniquement numérique qui transforme tout en chiffres, en nombres, qui mesure tout, comme le soulignait Jean-Gabriel Ganassia.
Oui, tout à fait. Il y a une tendance du monde contemporain relativement inquiétante à tout quantifier, à tout ramener à des évaluations numériques. Et les nombres, de par leur évidence, disons, de par le fait qu'ils constituent justement une des proto-entités qui nous permettent de penser, comme le soulignait Dehaene, de par cette évidence, de par leur objectivité, ont quelque chose de rassurant et qui communiquent dans une certaine mesure aux mesures qui les utilisent.
C'est-à-dire, vous dites rassurant, c'est-à-dire qu'au fond, cette possibilité infinie des nombres, on a vu au cours de cette émission qu'ils nous permettent de penser très loin, de manière très complexe. Là, au fond, il y aurait quelque chose quoi d'un peu réducteur, au contraire,
oui,
et de rassurant.
Je pense que ce qui est rassurant, c'est le statut qui est bien défini, qui est très clair des nombres, et ce caractère objectif, disons, fixe, il le communique par extension aux discours qui vont s'appuyer sur les nombres. Le seul problème, c'est de savoir si les discours, justement, qui s'appuient sur les nombres sont justifiés dans la partie qui n'est pas numérique.
C'est-à-dire que ça serait quoi? Ça serait trop normatif? Enfin, ça serait enfermer quelque chose, réduire quelque chose?
Alors, il y a une réduction, effectivement, de la complexité au nombre. Ça, c'est un premier aspect du problème. Mais il y a un aspect qui, je pense, est beaucoup plus inquiétant, c'est le fait que, et ça, les mathématiciens sont très conscients, ils sont toujours très gênés lorsqu'on fait appel à des évaluations qui sont uniquement quantitatives. Un phénomène essentiel de la mesure par les nombres, par les quantités, tient à la manière dont on construit, dont on calcule ces quantités. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que lorsque les médias typiquement diffusent des informations qui sont concentrées sur des quantités numériques,
des chiffres, des statistiques,
il faut se rappeler que ces chiffres, ces statistiques ont été construits, ont été constitués, et on ne peut pas dissocier le sens qu'on va donner à ces quantités-là du processus de constitution. Mais évidemment, c'est ce que tout le monde fait, puisqu'on ne va jamais détailler, lorsqu'on donne un chiffre, quel qu'il soit, une statistique quelle qu'elle soit, la manière dont elle a été construite.
C'est une construction, oui, typiquement, oui. Un exemple, peut-être ou...
Bon, n'importe quel sondage d'opinion, disons, fait appel à des questions qui peuvent être relativement orientées, qu'on oublie souvent, mais de manière plus problématique au point de vue mathématique, c'est que la constitution d'un échantillon de personnes interrogées, typiquement quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement délicat, et où se joue la crédibilité du nombre auquel on va aboutir, de la quantification à laquelle on va aboutir.
On oublie que c'est une construction, le nombre, qu'au fond, c'est figé parce qu'on l'a figé, c'est ça que vous dites.
On a figé une construction dans un nombre, mais on oublie le processus de constitution. J'entendais ce matin une des nouvelles qui était le fait que l'agence de notation Standard & Poor's est menacée d'une amende de 1 milliard d'euros en liaison avec la crise des subprimes. Et là, on voit typiquement dans la crise des subprimes toutes ces ambiguïtés et toutes ces erreurs possibles, disons, qui peuvent apparaître dans le fait de résumer une situation très complexe dans un nombre. Les agences de notation comme Standard & Poor's, mais la plupart des banques, des grandes banques mondiales, avaient essayé de synthétiser des données, disons, liées aux prêts hypothécaires américains, donc les fameux subprimes, avaient essayé de synthétiser toute la complexité de ces données-là dans quelques quantités. Et typiquement, ils avaient prévu que certains événements ne pouvaient se produire au maximum qu'une fois tous les 1000 ans ou les 10 000 ans.
Manque de bol,
ce qui s'est passé au moment de la crise des subprimes, c'est que ces événements qui devaient se produire une fois tous les 10 000 ans se produisaient tous les jours pendant des semaines. Donc on voit bien là que le processus de construction, en fait, qui avait abouti à ces calculs, était complètement erroné, reposé sur des bases complètement erronées. Mais je pense que jamais personne, à part peut-être les quelques personnes qui ont décidé, disons, de ces processus de construction qui allaient aboutir à ces calculs-là, personne ne s'est penché sur le mode de constitution de ces quantités.
Donc là, ce sont les mathématiciens, au fond, comme vous, qui disent attention à notre monde uniquement numérique. Au fond, si on vous suit bien, l'infinie possibilité des nombres, c'est à partir de choses très simples, comprendre peut-être la complexité, au lieu de réduire notre complexité à quelques nombres. Faut se méfier de ne pas aller dans le sens inverse, c'est
voilà,
ça ?
Disons, c'est important d'avoir des nombres, parce qu'effectivement, ils synthétisent souvent des données relativement complexes. On a besoin de ramener le complexe au simple, parce que que c'est vrai que ça fait partie de notre vie. On peut pas tous passer notre temps à tout décortiquer. Donc on a besoin de ramasser la complexité du monde dans des choses relativement simples. Mais en même temps, il faut un regard en retour sur la complexité sous-jacente. Il faut jamais la perdre de vue. Et il faut surtout être conscient du fait qu'il y a des processus de construction de la simplicité, ce processus qui ramène le complexe au simple.
Et pour en être conscient, il faut aussi peut-être lire votre livre, hein, j'ai envie de dire, La possibilité des nombres, Frédéric Patras, parce que justement, faire se rapprocher philosophe et mathématicien et voir à quel point ces nombres peuvent... sont des constructions qui amènent d'autres constructions encore, enfin, de suivre ce fil-là de la pensée.
Oui. Oui, une des choses qui m'ont vraiment fasciné dans l'écriture du livre, c'est la complexité justement des nombres, mais des nombres les plus élémentaires, le 0, le 1, le 2. On voit sur les objets les plus simples, les plus fondamentaux, hein, on revient toujours à ça, cette idée que les nombres sont les constituants, en un certain sens, des constituants ultimes de la pensée à partir desquels on va vraiment tout construire.
Et c'est vraiment à partir de cette simplicité-là qu'on peut tout construire.
Voilà, on peut dévider ou analyser cette simplicité, et en l'analysant, on se rend compte que les potentialités sont infinies et se déroulent vraiment sans fin. Que ce soit d'un point de vue historique, puisqu'on retrouve cette complexité dans toute l'histoire de la pensée, mais on la retrouve aussi dans la théorisation même, dans tous les problèmes qui sont posés. On peut imaginer qu'à l'avenir, ces problèmes-là vont encore se dévider à l'infini.
À l'infini, hein. Merci infiniment Frédéric Patras d'être venu en direct nous faire partager un peu de cet infini de la pensée. Je rappelle le titre de votre ouvrage, à la fois donc philosophique et mathématique, La possibilité des nombres, qui est paru aux presses universitaires de France au PUF. Merci à vous.
Merci à vous.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, on continue d'agiter nos neurones à vitesse accélérée en plus autour de la question où en est le LHC, le grand accélérateur de particules. Nous ferons le point sur une des plus grandes aventures humaines et scientifiques, celle du LHC, donc au CERN à Genève, et dans l'exposition où il est reconstitué à Paris au Palais de la Découverte. Nous partirons sur les traces des physiciens des particules conquérants du minuscule avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, surtout, portez-vous bien, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert vers l'infini. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Les informations, les nouvelles, dans une poignée de secondes sur RFI.